Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Bretenières, en Côte d'Or, 900 habitants dans la périphérie de Dijon, et un maire qui, en 2015, est excédé par les excès de vitesse. Sur la route qui traverse la commune, la vitesse est en effet limitée à 30 km/h, or il constate que les automobilistes roulent rarement en dessous de 70, voire 80 km/h. Le maire, nommé Hervé Bruyère, est en colère. Il s'inquiète, il ne sait pas quoi faire. Il a bien essayé de mettre un dos d'âne, mais ça n'est pas très efficace. Les voitures continuent à foncer bêtement. Il décide alors, dit-il, de choisir la communication plutôt que l'information. Il fait donc fabriquer et installer à l'entrée de sa commune un panneau de signalisation pour le moins étonnant, puisqu'il y est écrit « Il reste des enfants à écraser, vous pouvez accélérer ». Le cynisme de l'avertissement ne manque pas de choquer ses administrés qui demandent des explications et protestent. Mais à la fin, le panneau reste en place comme un geste fort et dérisoire qui en dit long aussi sur la puissance et l'impuissance des petits maires de France. C'est notre sujet aujourd'hui, ce qu'ils entreprennent, petites et grandes choses, ce dont ils souffrent, ce qu'ils vivent ou refusent de vivre au niveau le plus local dans des communes entre 300 et 4500 habitants. Tout de suite donc, trois mères racontent des histoires emblématiques, drôles ou tragiques, mais pas anecdotiques, qui donnent quelques pistes sur leurs dures existences. Ça se passe à Grand-Failly, une commune de 300 habitants en Meurthe-et-Moselle, à Verberie, 4000 habitants dans le sud de l'Oise, et Laigneville, plus de 4500 âmes dans les Hauts-de-France. Sachez, avant d'écouter cela, que les maires sont indemnisés en fonction du nombre d'habitants de leur commune, en dessous de 500, leur indemnité de fonction est de 661,20 €. En dessous de 1000 habitants, c'est 1 200 € par mois environ. Et pour les deux derniers que nous allons entendre, entre 3000, 5 et 10 000 habitants, ils perçoivent 2 139,17 € brut par mois. Trois histoires donc, petites et grandes, par Clément Baudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, je me présente, monsieur Damien Jean-François, maire de Grand-Failly depuis 2001. Sans étiquette, j'ai préféré le voir sans étiquette. Dans mon conseil municipal, j'ai des gens de droite, j'ai des gens de gauche. Je suis heureux parce que je n'ai pas de fonds national. Grand-Failly se situe dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à 30 km de la Belgique et à 30 km du Luxembourg. Et à ce jour, nous sommes au dernier recensement, 2016, on était 350. Je compte pas les vaches. Voilà donc, Monsieur Macron, quand il a été élu, il a dit la taxe d'habitation sera supprimée. En tant que citoyen lambda, je ne pouvais être que satisfait. Par contre, en tant qu'élu et maire de la commune, j'ai trouvé ça un peu gros. C'est quand même notre ressource principale. Ça représente, pour une commune de 350 habitants, comme Grand-Failly, ça représente 45 000 euros par an, quoi. Qui n'est pas négligeable. Et septembre 2017, j'ai reçu la photo de notre président qui nous avait été envoyé par la sous-préfecture. J'ai décroché donc le cas de François Hollande pour remettre la photo de notre président, Emmanuel Macron. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la photo dépassait du cadre. Je me suis dit que de racheter un cadre à 50-70 €, la commune n'avait pas les moyens, j'ai pris la décision de conserver le cadre et de réduire sa photo. Donc je me suis dit, allez mon coco, tu m'as réduit mes dotations, moi je vais te réduire un peu le portrait. Donc j'ai commencé par mettre une feuille blanche sur sa photo, en bas au niveau des pieds, et je me suis rendu compte que ça convenait parfaitement. Donc j'ai supprimé un tiers de Monsieur Macron, et pour éviter que ce soit un carré blanc, j'ai préféré mettre dessus donc un tiers de finance en moins égale un tiers de photo en moins, pour bien que les choses soient bien comprises par les gens qui fréquentent la mairie, que ce soit pas mal perçu, quoi. On voit pas ses mains, voilà. Parce que comme la photo est faite, on a l'impression qu'il est prêt à dégainer sur les gens. C'est pour ça que j'ai caché un petit peu, je n'ai pas trop la violence. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai préféré lui cacher un peu les mains pour le calmer un petit peu, quoi. C'est humoristique pour moi, quoi. Et tout est parti de là, quoi. Un matin, j'arrive en mairie, ce coup de 8h30, le téléphone sonne à 9h, 9h pile, hein, je me rappellerai toujours. Donc j'ai pris la communication et monsieur le sous-préfet m'a demandé si j'avais eu l'occasion de lire le journal de ce matin. J'ai dit, monsieur le sous-préfet, je suis désolé, mais mes moyens ne me permettent pas d'acheter le journal tous les jours. Voilà. C'est là qu'il m'a dit, monsieur le maire, vous faites la une des journaux. Ah bon? Lui, qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc c'est là qu'il m'a dit que j'avais raccourci la photo du président, que c'était un outrage, que j'étais un homme public, que j'avais pas à faire ça. Je vais vous dire qu'il m'a, je dirais on peut dire le terme, excusez-moi, qu'il m'a engueulé pendant 20 minutes, quoi. Et il m'a dit, monsieur le maire, ça ne s'arrêterait pas là, il y aura des sanctions qui seront prises, quoi. Et puis, avant de raccrocher au bout de 20 minutes, il m'a dit, monsieur le maire, je veux dire pas au revoir, vous le méritez pas. Et moi, je lui ai dit au revoir, monsieur, et puis j'ai raccroché. Et donc, quand il a raccroché, j'ai fait part à ma secrétaire, j'ai dit, à mon avis, je vais être suspendu un ou deux mois pour outrage, comme je représente quand même la République, quoi. Deux jours après, on avait l'inauguration d'un mât téléphonique, parce qu'on était en zone blanche, et j'ai eu la visite de monsieur le sous-préfet, de monsieur le préfet, de Meurthe-et-Moselle, et du président du département, qui se sont dérangés exprès en mairie de Grand Failly, 350 habitants, hein, pour l'inauguration du mât, mais surtout pour voir la photo, quoi, ce que ça a donné, quoi. Monsieur le préfet a été cordial, il m'a dit, bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi, je veux dire, alors moi, je lui ai dit, monsieur le préfet, j'ai respecté tout le monde, j'ai rien fait de mal, en cachant la photo. Il a dit, oui, mais bon, vous êtes quand même un élu de la République, c'était une chose à ne pas faire, quoi. Trois jours après l'intervention de monsieur le sous-préfet, j'ai reçu un coup de fil chez moi, sur mon portable, comme quoi, donc, c'était la gendarmerie de Longuyon qui m'avertissait que j'allais avoir la visite de deux gendarmes dans les minutes qui ont suivi. Donc, j'ai eu la visite d'un commandant et d'un colonel de gendarmerie de Nancy qui se sont déplacés spécialement pour voir si la photo n'avait pas été abîmée. Donc, ils ont constaté par eux-mêmes que la photo n'était pas abîmée. Ils m'ont dit, bon, c'est tout, nous on venait constater, on vous reproche rien. Ils m'ont dit, vous pouvez la remettre comme elle était. Donc j'ai remis, avec le cadre, toujours le cadre blanc, un tiers de finance en moins, donc un quart de photo en moins. Déplacer un commandant et un colonel pour une bêtise pareille, je veux dire, c'était un peu l'ordre de café, quoi. Je me suis dit, on sait que ça va s'arrêter. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Une semaine après, j'ai reçu un coup de fil de l'Assemblée nationale, donc notre député local, REM, donc il m'a demandé s'il pouvait me rencontrer, qu'il avait reçu un mail de M. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui lui avait dit de venir me rencontrer pour me remonter un peu les bretelles, que c'était pas bien ce que j'avais fait. Donc le député est venu chez moi, me faire part des réclamations de M. le ministre de l'Intérieur. Il m'a dit, la prochaine fois, ça ira peut-être plus loin, quoi. Tous les matins, dès que je me levais, j'avais entre 30 et 50 messages de gens de toute la France, de Corse, de Bretagne. Beaucoup de gens me disaient que j'avais raison, que j'avais bien fait, que c'était la mort des communes, vraiment la taxe d'habitation collectivité, quoi. J'ai pas eu vraiment de suspension parce que ils n'ont pas osé. Ils m'ont quand même envoyé deux gendarmes, le député REM, plus un contrôle fiscal. Tout ça a débouché de la photo de Macron, quoi. En 15 ans de temps, j'avais rien eu, j'ai même pas eu de la visite d'un percepteur, un truc comme ça, tout se passait régulièrement. Mais là, subitement, un contrôle fiscal qui tombe du ciel, on sait pas comment il est venu, mais bon, ils m'ont n'ont rien trouvé. On dit, j'ai fait ce propre. C'était un contrôle fiscal sur la collectivité, sur la commune. Oui, c'était pas un contrôle fiscal personnel. Mais ils peuvent venir chez moi aussi, hein, j'ai rien à cacher non plus, hein. Moi, à mon avis, comme ils pouvaient pas me pénaliser physiquement, ils m'ont pénalisé au niveau de la collectivité, quoi. Je veux dire, j'ai été obligé de me séparer de deux employés, que j'ai pas pu renouveler le contrat du fait de la baisse des dotations. La commune n'avait plus les moyens de les payer pour continuer leur contrat, quoi. Donc il y avait un contrat aidé, mais comme Macron a supprimé les contrats aidés, donc j'ai été obligé de me séparer d'une employée qui était dans les espaces verts et un autre employé qui était chargé de l'entretien de la voirie. Bon, la petite dame a retrouvé du travail 6 mois après, mais l'employé communal, responsable de la voirie, il est toujours au chômage, quoi, pour l'instant. Si j'avais pu les garder, je les aurais gardés. Malheureusement, avec la baisse des dotations, je pouvais pas mettre la collectivité et la commune en difficulté. Et j'ai toujours dit, et je le dis haut et fort, je suis là pour défendre les intérêts de ma commune et de mes habitants. dans notre commune, on essaie de venir en aide, il y a une solidarité, les gens s'aident entre eux. Quand une personne est en difficulté, la commune met du bois à disposition, les professeurs d'école et ceux qui gèrent la cantine ont le droit d'accepter tout le monde, quoi. Même celui qui ne paye pas, il faut qu'il mange. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui a changé beaucoup, je dis bien beaucoup, c'est qu'on n'a plus de projet. Là, je vais me représenter en 2020 et on a fait une réunion la semaine dernière avec les adjoints, voire rien proposer, parce que qui vous dit que demain il ne va pas supprimer la taxe foncière? Depuis que Macron est arrivé, on ne fait plus rien, on est bloqué.
Michel Arnoux, je suis aujourd'hui maire de Verberie depuis 2014. Je n'étais pas du tout destiné et je ne m'étais pas préparé à occuper cette fonction. J'étais au ministère de la Défense. J'occupais des postes à responsabilité, des postes de commandement. Et au départ, mon engagement, c'est un engagement pour les habitants. Ce n'est pas un engagement au nom d'un parti politique, c'est vraiment un engagement citoyen. Je suis donc sans étiquette. C'est un travail à temps complet, de 9h à 23h, sur le week-end, au moins une journée complète. Alors, la commune de Verberie, c'est une petite ville, 4000 habitants, dans le sud de l'Oise, entre Compiègne et Senlis. Et l'été 2019, plus précisément, ça a démarré après le 14 juillet, avec la canicule, où nous avions une dizaine de personnes qui mettaient beaucoup de désordre, que ce soit sonore, pétard, boisson, conduite de scooter ou rodéo avec des scooters, rixes, tout ça dans un emplacement extrêmement réduit, près de logements collectifs. Et un jour, j'ai reçu 1, 2, 3 messages en l'espace de quelques minutes, dans lesquels on me disait que c'était insupportable, que les gens n'arrivaient plus à dormir. Les habitants se plaignaient de différents types de menaces, de voir leurs véhicules détruits, de voir les pneus de leurs véhicules crevés, menaces de viol sur des femmes par un individu. Ils me demandaient de mettre fin à tout ça, évidemment. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur le maire ? Alors, on était en pleine nuit. Hein. J'ai constaté les pétards, le bruit. J'ai constaté également les scooters, j'ai constaté des personnes qui se plaçaient à l'entrée des résidences et je suis convaincu qu'effectivement il y avait beaucoup de drogue qui s'échangeait à cet endroit-là. Une fois que j'ai constaté de moi-même, de visu, ce qui se passait, la gendarmerie a intensifié ses patrouilles, la gendarmerie a mis en place des dispositifs plus complets pour maîtriser la situation sur place. Et courant juillet, je crois que c'était le 25 juillet, il y a un individu qui a hurlé en me menaçant. J'étais sur place là-bas parce que le bailleur social avait mis en place des vigiles et je prenais contact avec les vigiles pour voir comment ça se passait. Donc cet individu a complètement s'est mis à hurler. Je vais te cramer dans ta maison avec ta famille. Je vais t'arracher la gueule avec les crocs. Et ça représentait évidemment une véritable menace pour moi et ma famille. Je suis resté calme, je lui ai demandé de cesser ses insultes. Les autres résidents, vous savez, les gens se taisent, restent chez eux, avaient peur. Et c'était à 4h du matin, le 2 août 2019. Alors j'étais en plein sommeil chez moi, le téléphone a sonné, j'ai décroché. Le responsable des pompiers m'a dit « Monsieur le maire, j'ai besoin de vous sur place parce que nous avons un incendie sur la commune, près d'un bâtiment abandonné. » À partir de là, je lui ai dit « Écoutez, j'arrive. » Je me suis levé, je suis descendu. Et puis c'est là qu'en sortant par mon garage, j'ai constaté qu'un feu avait été mis à ma porte de garage. Donc je me suis précipité pour ouvrir la porte, dégager la fumée. On avait des pelées de bois qui étaient effectivement en train de constituer un foyer. J'avais des bouteilles de gaz qui étaient tout à côté. Et puis mon épouse est arrivée, on a réussi à l'éteindre avec quelques chiffons. J'ai tout de suite fait le lien avec les menaces. J'ai eu la chance d'être réveillé à temps, mais si je n'avais pas été réveillé par les pompiers, là je dormais profondément et je pense que la maison aurait flambé complètement. Les incendies d'ailleurs qui avaient été déclenchés cette nuit-là, à peu près de manière simultanée, étaient 3 incendies criminels, et celui-ci était évidemment un incendie criminel. Donc j'ai évidemment porté plainte. Cette plainte est toujours en cours et toujours en instruction. Et puis la deuxième chose que j'ai fait, j'ai renforcé à mes frais d'ailleurs tout le dispositif de protection autour de mon domicile. C'est extrêmement violent. Bon, nos enfants nous ont évidemment appelés, une de nos filles nous disant « mais qu'est-ce que vous faites encore là ?» J'ai reçu beaucoup de messages de soutien des habitants, mais aussi des élus que je rencontre régulièrement. En se réunissant avec le bailleur social, la gendarmerie, il a été décidé de mettre en place tout un système de vidéoprotection au niveau de l'ensemble de ces résidences, système qui sera en place début 2020. Moi, ce que je demande, c'est effectivement des moyens, mais surtout renforcer les pouvoirs de police du maire, mais aussi les pouvoirs de la gendarmerie. Faisons confiance au maire, mais faisons confiance aussi aux forces de sécurité qui nous protègent. La violence la plus importante, c'est pas celle du coup de poing. La violence la plus importante, c'est qu'on vous confie une mission, qu'on vous demande d'assurer la tranquillité sur votre commune et que manifestement, vous n'ayez pas le pouvoir d'assurer cette mission. On ne vous donne pas les moyens vous permettant de l'assurer. Et ça, c'est une véritable violence parce que, évidemment, les habitants viennent vers vous en vous disant « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire ? C'est votre rôle d'assurer la tranquillité sur la commune. » Pourquoi ne le faites-vous pas ? Aujourd'hui, c'est calme. Ceci dit, on n'est plus vraiment dans la canicule. Nous sommes fin octobre, donc les soirées sont plus fraîches. Ça contribue sans doute au calme, même si la semaine dernière, il y a eu de nouveau une soirée agitée où il a fallu faire intervenir les forces de gendarmerie. Pour moi, aujourd'hui, je suis dans le combat, la mise en place d'actions pour pas que ça se reproduise. Je vais effectivement me représenter parce que ce qui me donne la force, c'est que le travail n'est pas terminé. Donc pour moi aujourd'hui, l'action, notamment celle qui a été conduite à mon domicile, c'est du passé. Je suis tourné vers l'avenir et nous mettons en place les mesures pour que ça ne se reproduise pas.
Sur terre. Je m'appelle Christophe Dietrich, j'ai 48 ans. Je suis maire de Laigneville donc depuis 2014. J'ai été élu ici sans étiquette politique. Par contre, j'appartiens, et ça je l'assume, à la majorité départementale de droite. Voilà. J'ai un parcours assez atypique, j'ai fait un CAP, un BEP, un bac pro de cuisine. Et à 28 ans, je suis rentré dans la police. Quand j'étais policière, voici. Franchement, en tant que policier, j'avais plus le sentiment d'être utile. Aujourd'hui, tout ce que je fais a un impact sur mes 5000 habitants. Alors Laigneville, on est à 60 km au nord de Paris. C'est une ville en pleine expansion démographique. Chaque jour, on a à peu près 1000 personnes qui prennent le train pour aller travailler sur Paris. On est dans l'Oise, dans le sud de l'Oise. Donc c'était un vin de fumée. Il faisait presque 30 degrés dehors. Et je me rappelle que la famille nous a appelés en disant « Voilà, monsieur le maire, on a un problème, on n'arrive pas à trouver de médecin pour... » faire constater le décès. C'est un décès à domicile. Il faut savoir que lorsque le décès a lieu sur la voie publique, on vous envoie obligatoirement un véhicule du SAMU pour constater le décès. Par contre, quand c'est à domicile, c'est à vous de vous débrouiller. Il faut savoir que nos deux médecins étaient sur le point de partir à la retraite et que on est en plein désert médical. Ici, on n'a plus que 4 médecins pour 24 000 habitants. Et donc, j'ai passé ma matinée au téléphone entre l'ARS, l'Agence régionale de santé, la préfecture, le SAMU, pour essayer de trouver un médecin. Et tout le monde se renvoyait la balle. En me disant, bah oui, mais c'est un décès, il n'y a plus d'urgence, donc il n'y a pas lieu d'envoyer un véhicule d'urgence. Sauf que le temps passant, le corps commençait à dégager certaines odeurs, parce qu'il faisait chaud. Et donc, je me rappelle que donc ça a commencé vers 8h, et je me rappelle que vers 13h, là, je me suis véritablement mis en colère. Au moment où j'ai fait ça, c'était un représentant de la sous-préfecture, et j'ai lancé un ultimatum. J'ai dit de manière, c'est simple, soit vous m'envoyez un véhicule d'urgence, soit je prends le cadavre et je le mets devant la porte. Voilà. Et... je sais pas pourquoi, mais comme par magie, 20 minutes après, on avait un médecin urgentiste qui était là. Donc tout est parti de là, et je me rappelle, j'étais très très en colère. Et je me rappelle qu'à un moment, j'ai dit, mais cette situation est tellement absurde, que d'un coup j'ai eu l'idée de prendre cet arrêté qui est tout aussi absurde, de dire bah, puisqu'on n'a personne pour aller constater les décès à domicile, eh ben, on va interdire aux Laigne-Villois de mourir à domicile. Voilà, c'est parti de là. Je suis rentré à la mairie, j'ai dit à ma secrétaire, voilà Nathalie, vous allez me prendre un arrêté pour interdire de mourir à domicile. Donc arrêté du maire portant interdiction aux Laigne-Villois de décéder à domicile sur le territoire de la commune. Donc le maire de la commune de Laigneville, Oise, vu l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir du maire, vu le Code de santé publique et notamment l'article L1311-1, considérant la pénurie de médecins, considérant le temps mis à constater un décès sur la commune, plus de 5 heures, le maire arrête. Il est interdit aux Laigne-Villois de décéder en leur domicile, fait en mairie le 17 mai 2017. Alors, les gens de la commune, ils se sont dit, mais on a élu un fou. Et je devais faire face en plus à une population qui était extrêmement remontée. Et je me rappelle avoir subi des pressions et des menaces de la part de la population qui se sentait totalement abandonnée, quoi. Donc après, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver des médecins. Et alors là, c'est pas des médecins que j'ai trouvé, c'est des marchands de tapis. J'en ai un, il m'a dit, voilà, c'est bien, vous me donnez le cabinet, vous me donnez un secrétaire, mais je veux être logé gratuitement, vous payez mes fluides et vous embauchez ma femme. Donc je lui ai demandé s'il voulait que je nourrisse le chien, il a pas beaucoup aimé. Ensuite, j'en ai un autre, il m'a dit, je veux un véhicule de fonction, mais je fais pas de visite à domicile, d'accord. J'en ai un autre, il m'a dit, moi c'est 50 000 euros, mais si je trouve mieux, je me casse. Je me suis retrouvé face à un mur, les deux pieds dans le sable, face à un mur, en plein désert médical, et j'avais plus de solution. Et j'étais désespéré pour ma ville et ma population. J'en ai passé des nuits. Je me suis jamais stressé pendant mes 6 ans de mandat. Le seul moment où ça a été compliqué, c'est quand il a fallu trouver un médecin. Donc à peu près une semaine après que l'arrêté est publié, il y a quelqu'un qui vient qui me dit « Oui, bonjour, je cherche le maire. » Je dis « Bah ça tombe bien, c'est moi. » Il me dit « Voilà, je suis le professeur Saint-Calbre, j'aimerais vous rencontrer. » Puis là, il me dit « Vous savez, je viens de faire 500 km rien que pour vous voir. » Avec des associés, j'ai monté une start-up. On a mis en vente un chariot de télémédecine qui équipe aujourd'hui près de 150 EHPAD en France, 150 maisons de retraite. Et donc on a discuté pendant une demi-heure, au final je lui ai dit, vous savez, ça m'intéresse pas, rien ne remplacera jamais le médecin physique. Je croyais pas du tout parce que j'avais une image de la télémédecine telle que le gars avec son téléphone ou son ordinateur à la maison qui consulte un médecin. Il m'a dit, non, moi c'est pas ça que je vous propose, c'est un véritable matériel médical. Et puis le mois d'après, au mois de juin, il m'a invité à venir à Nancy participer à une expérimentation. Là, le regard a changé. J'ai compris qu'on était face à un matériel médical manipulé obligatoirement par du personnel médical spécialement formé et que ce que le médecin ne pouvait pas toucher, il pouvait le voir. Et donc à partir du mois de septembre, j'ai retrouvé mes élus. Je leur ai dit, voilà, moi j'arrive pas à trouver de médecin. J'ai tout essayé. Moi je vous propose quelque chose, c'est de faire de la télémédecine. Et alors là, oh là là, levée de bouclier. Mais non, tu n'y penses pas, c'est de la connerie tout ça. Je dis, je sais, je disais la même chose il y a 3 mois. Laissez-moi vous convaincre. On a carrément monté un cabinet médical dans la salle des fêtes, mais complet. Et on faisait des démonstrations qui duraient des fois plus de 4 heures devant près de 400 personnes. Et on faisait des consultations à distance avec des médecins qui jouaient le jeu à 300 km. On leur montrait tout de la consultation de A à Z. C'est un cabinet médical normal avec une salle d'attente. Et donc derrière, lorsque vous rentrez dans le cabinet, vous avez un appareil, donc le chariot de télémédecine, avec un fauteuil de consultation, et vous avez une infirmière. L'infirmière va vous recevoir, elle va prendre toutes vos constantes, poids, taille, âge, ta. Elle va vous demander vos symptômes, et donc une fois que tout ça est fait, on contacte le médecin. Et là, le dialogue s'installe directement entre le médecin et le patient, et ils se voient, d'accord? Et l'infirmière effectue les gestes que le médecin demande, stéthoscope, palpation, tout ça et tout. Et vous faites votre consultation, une fois qu'elle est faite, le médecin vous donne votre ordonnance, il tape le rapport médical qui sera envoyé à votre médecin traitant si vous en avez un, et le cas échéant, il vous fournit aussi votre arrêt de travail s'il y en a besoin. L'objectif, c'était de convaincre, ensuite il fallait constituer une équipe de médecins et d'infirmières. L'équipe de médecins, la société qui proposait le chariot s'en est occupée, donc il n'y a pas de problème. Par contre, nous, il fallait qu'on ait une équipe d'infirmières ici, et c'est parti comme ça. Donc on a constitué une équipe, et en parallèle, j'ai commencé à approcher l'agence régionale de santé. Puisque si on voulait que les consultations soient prises en compte et remboursées, il fallait passer par eux. Et lorsqu'ils ont compris qu'en janvier 2018, on était prêt à passer en phase d'ouverture du cabinet, là, on s'est heurté carrément à des gens qui sont devenus menaçants. Et donc, en gros, ce qu'ils nous ont dit, grosso modo, si vous voulez l'ouvrir, c'est à nos conditions, avec notre industriel, et vous êtes obligé de passer par nous, et pas autrement. Et si vous ne le faites pas, on vous poursuivra pour exercice illégal de la médecine. Les infirmières me font savoir qu'elles, de leur côté, les représentants des infirmiers leur ont dit que, grosso modo, s'ils travaillaient avec moi, ils risquaient de perdre leur diplôme. Donc c'était quand même des menaces assez lourdes, hein. Et en plus d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. L'ARS voulait garder la main, elle avait peut-être des intérêts, on va dire, financiers ou industriels, enfin je sais pas, mais en tout cas il y avait des intérêts qui faisaient qu'ils ne voulaient pas que Laigneville fasse ce qu'ils veulent. Effectivement, donc quand on a ouvert le 21 juin, donc les infirmières le matin se sont présentées au cabinet avec moi, je vous promets qu'on n'emmenait pas large quand même, parce que ça tapait fort. Pour être tout à fait honnête, pendant 2 mois, on s'attendait tous les mercredis, tous les vendredis, donc les jours d'ouverture du cabinet, à voir débarquer les huissiers. Et en fait, jamais personne n'a débarqué. En un an, allez, on va dire en un an et demi, puisqu'on arrive au mois de novembre, on est passé de 0 à 800 patients. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que comme on n'a pas été reconnu par l'ARS, on ne pouvait pas faire rembourser les consultations par les patients. Donc du coup, on a fait mieux. C'est la commune qui paye les consultations. On paye les médecins directement. On a passé une convention avec eux. On a 6 médecins, 4 infirmières. Les médecins, on en a dans l'Est, on en a à Lyon, on en a à Bordeaux. Voilà. Et ce sont toujours les mêmes qui travaillent pour la télémédecine. Et donc, par demi-journée, on les paye. Et donc, ce qui fait que les gens viennent à Laigneville consulter gratuitement. Ça coûte à peu près 100 000 euros par an à la commune. Si j'avais salarié un médecin, faut pas rêver, ça m'aurait coûté aussi cher que ça. Mais c'est de l'argent public bien utilisé. Je veux dire, grâce à ça, on a une solution médicale à offrir à tout le monde. Et alors, non seulement à la population de Laigneville, mais bien au-delà. On a des gens qui viennent, qui font 50 km des fois pour venir consulter ici. Je me refuse à faire de la discrimination en matière de santé publique. Alors on a trouvé un médecin aussi entre-temps, mais le cabinet est ouvert souvent quand le médecin n'est pas là. Aujourd'hui, notre rôle, c'est aussi, je pense en tant qu'élu, ne pas toujours avoir en tête le côté mercantile des choses. C'est le sentiment du devoir accompli. Pour être aujourd'hui un maire qui répond aux besoins de ses habitants, on a le choix, soit on ne fait rien, et comme ça on risque rien, soit on est obligé, malheureusement, compte tenu aujourd'hui des lourdeurs administratives, d'être constamment borderline, et puis de temps en temps marcher sur la ligne, pour pouvoir arriver à répondre à ce à quoi ni la justice, ni le gouvernement, ni la loi ne sont capables de répondre aujourd'hui.
No meu bairro sem pretensão tem horrível reputação. Todos gritam quando eu me calo e se escandalizam quando falo. Eu que não pensava que era pecado evitar a trilha onde anda o gado. Mas a gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Essa gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Todos me chamam de indecente, tirando os mudos naturalmente. Quando enterram o presidente, fico na minha cama quente. Que me importa se o rei morreu? Viva o palhaço e viva eu. E eu que não pensava que era pecado ser indiferente ao engravatado. Mas a gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Essa gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Todos apontam pro indecente.
C'était Des mères au bord de la crise de nerfs, un reportage de Clément Baudet réalisé par Clémence Grosse. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Aurélie Marsay. Merci à Jean-François Damien, à Michel Arnoul et à Christophe Dietrich.
Tirando os cegos, é natural.